interdit de prendre une vidéo nette. Toutes les vidéos que j'ai prises sont floues. Et je me suis dit, mon téléphone, il a voulu ça, tu vois, il a dit. C'est génial.
Sans gris ni frontières, qu'on appelle aussi la fin de la terre. Tu comprendrais que je suis plus libre que l'air, et que c'est ainsi que j'aimerais te plaire. Je viens d'un pays aux larmes de pierre, qu'on appelle aussi la fin de la terre, où chaque légende est une autre vie, autant qu'un mystère est. J'ai construit mes pieds.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y aurait d'un gain, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. S'il est rainette, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, quand ici ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Sergi des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission de Groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Bonjour, nous sommes de retour après 15 jours d'absence, et nous avons un invité fameux, Romaric, bonjour, Romaric Gaudin. Bien. Alors, François est à mes côtés.
Bonjour.
François, bonjour. Ce sera Ken Dong, notre technicien aujourd'hui. Et nous allons parler d'un livre, et pas n'importe lequel, Penser l'émancipation autrement, oui, marxiste hétérodoxe. Je sens que nous allons nous amuser pendant 90 minutes, cher Romaric.
Alors, le titre peut impressionner, mais en fait, c'est, on essaye de rendre les choses abordables. On va dire.
Elles sont très abordables. C'est un exercice de synthèse éblouissant, magnifique. Vraiment, je l'ai lu et relu, parce que j'ai pour habitude de lire et relire. Lire d'abord en première lecture, pour le plaisir de la lecture, et relire pour faire le plan de l'émission. Et ça a été un véritable plaisir, vraiment. Donc, nous allons parler de Rosa Luxembourg, de M. Sylvia Pankhurst, Lukács, Rouleux, Grossmann, Kirsch et Matic.
Eh oui.
Voilà. Donc, dans l'ordre chronologique de naissance, pour ne pas faire de dispute.
Exactement. Exactement.
C'est un
choix, parce qu'on aurait pu faire des choix
stratégiques.
On aurait pu les regrouper par école de pensée, etc. Mais en fait, on a, parce que le livre, il est... Évidemment, moi, j'ai écrit ces textes qui ont été publiés dans des séries d'été sur Mediapart pendant 5 ans, hein, de 2020 à 2025. Mais il y a un gros travail quand même du collectif Smolny, donc, qui édite ce livre, pour rendre le texte un peu plus digne, disons, d'être dans un livre, mais aussi d'avoir des notes, d'avoir ce qu'on peut pas forcément faire quand on écrit sur un site internet, donc d'avoir des notes, d'avoir une bibliographie, et puis d'avoir aussi des textes qui accompagnent mes textes à moi, donc qui sont des textes un peu de présentation de la pensée de ces huit intellectuels et aussi praticiens de la Révolution. Et donc ça permet aussi au lecteur d'entrer directement dans l'écriture de ces personnes, et puis si ça leur plaît, il y a une bibliographie qui a été conçue aussi par le collectif Smolny, qui est à jour quand c'est possible en français, et un index. Donc c'est aussi un travail un peu collectif, et donc je reviens au début de mon propos qui consistait à justifier un peu qu'on ait choisi cet ordre chronologique, parce que en fait on a fait le choix aussi de ne pas accompagner ces textes d'un grand texte pour essayer de faire de donner une cohérence d'ensemble, en fait on n'avait pas du tout la volonté de faire une sorte de bréviaire, de petit manuel du bon révolutionnaire, de distribuer des bons et les mauvais points. En fait, moi j'ai aussi fait ces portraits dans l'idée de dire ce sont aussi des gens qui ont vécu dans des périodes pré-révolutionnaires ou révolutionnaires ou post-révolutionnaires, avec tous les problèmes que ça pose, hein, les choix à faire, les difficultés que ça suppose. Et l'idée, c'est pas de dire ce sont des modèles sur lesquels on doit en quelque sorte se baser. C'est plutôt des inspirations, de dire voilà ce que ces gens ont à nous apporter aujourd'hui. Voilà aussi comment ils ont vécu et stratégiquement ce que ça suppose d'être confronté à une réalité révolutionnaire, mais aussi à des réalités contre-révolutionnaires, que ce soit évidemment du point de vue de la bourgeoisie ou du point de vue pensée marxiste dominante, hein, d'où le terme hétérodoxe, puisque ce qui relie tous ces gens, c'est qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont été en opposition avec une forme d'orthodoxie marxiste. Et en cela, pour moi, en tout cas, ils sont plus marxistes que l'orthodoxie marxiste. Donc évidemment, du point de vue marxiste, le terme hétérodoxe n'a pas de sens. Mais quand même, il y a eu à un moment une orthodoxie marxiste qui s'est opposée au... Et ça, c'est quelque chose qui fait l'unité de ces huit penseurs, qui s'est opposé à la pensée de ces huit personnes. Et en cela, je disais, ils sont plus marxistes qu'eux, puisque on le sait, hein, Marx disait, ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. Donc, ça les rend particulièrement dignes de la pensée du vieil du vieil homme de trêve, on va dire.
D'accord. Alors, on va commencer par ordre chronologique de naissance, honneur aux dames, Rosa Luxembourg. Donc, moi, j'ai bien aimé le titre de son chapitre. Alors, que je retrouve mes notes. Tac, tac, tac. Oui, un blanc, c'est terrible. L'antenne. J'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Rosa Luxembourg, moderne au-delà du mythe.
Oui, parce que, en fait, évidemment, quand j'ai décidé de faire le texte sur Rosa Luxembourg, bon, Rosa Luxembourg, tout le monde connaît. C'est peut-être la plus connue des huit que qui est dans ce livre. Tout le monde, en tout cas, croit la connaître. C'est-à-dire, ce qu'on connaît, c'est le mythe de Rosa Luxembourg, qui a été récupéré, y compris d'ailleurs par le marxisme-léninisme officiel. Hein. Il y avait
après son assassinat avec Karl Liebknecht.
Voilà, c'est son assassinat avec Karl Liebknecht par les forces des corps francs, en fait. Dirigé, enfin utilisé par la social-démocratie au pouvoir en janvier 1919 contre le soulèvement spartakiste. Et donc on la connaît en tant que martyr de la révolution, en quelque sorte. Mais ce qu'on connaît moins, et ce qui est souvent dissimulé, on la connaît aussi dans son opposition à la Première Guerre mondiale, donc en tant que pacifiste. Mais ce qu'on connaît moins, en fait, c'est toute sa réflexion autour du capitalisme, autour de la pensée de Marx, ses contributions qu'elle a eues en fait à toute la réflexion de la social-démocratie allemande avant la guerre, et également toute cette pensée qu'elle a développée pendant la Première Guerre mondiale, qu'elle a passée en partie en prison en Allemagne, autour de la stratégie qu'il fallait développer pour parvenir à l'émancipation des masses. Et en cela, elle a été une penseur particulièrement originale, et c'est un peu cette originalité que je voulais remettre en scène pour pouvoir en fait avoir véritablement la conscience que Rosa Luxembourg, c'est pas seulement une martyre de la révolution, c'est surtout en fait une des grandes intellectuelles de la pensée de l'émancipation ouvrière, mais plus généralement de l'opposition au capitalisme.
Alors, dans son livre L'accumulation du capital, son œuvre majeure, alors elle dit un certain nombre de choses qui se révèlent vraies à l'heure actuelle.
Bah, en fait, l'accumulation du capital, il y a plein de choses. Alors, il y a des choses qui sont plus contestables. Il y a une remise une remise à plat. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, et on va le retrouver dans les autres penseurs, c'est que elle prend la pensée de Marx comme un outil. Elle ne le prend pas, elle n'a pas une sorte de vénération biblique pour le texte de Marx. Donc, en fait, elle prend le livre 2 du Capital et elle se dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le livre 2 du Capital, et je vais essayer de réfléchir à comment se fait l'accumulation du capital en remettant en cause, en fait, ce qui me semble être des erreurs de Marx. Et ça, bon, après, ce qu'elle fait là est peut-être contestable à tel ou tel endroit, mais la démarche me semble, moi, en tout cas, particulièrement
hétérodoxe.
Oui, et surtout, elle est importante, parce qu'en fait, si on a une démarche marxienne, si on veut utiliser Marx, il ne faut pas, en fait, avoir une vision, je dirais, religieuse de la pensée de Marx. Il faut aller se confronter à cette pensée, voir ce qui colle aujourd'hui et ce qui ne colle pas aujourd'hui. Ça, c'est sur la méthode, et c'est une méthode qui, en fait, est pour moi, aujourd'hui, quelque chose qui, après ce qu'on a connu, c'est-à-dire le socialisme réel et ses problèmes, ce qui me semble important, c'est-à-dire qu'on doit avoir une vision de Marx où on doit être en dialogue avec Marx et pas uniquement dans la vénération ou simplement donner trois citations. Je dis ça, parfois je le fais, mais on doit pas simplement donner trois citations en disant voilà, il a dit ça, donc c'est la vérité. Ça doit venir en fait renforcer nos arguments et on doit dialoguer avec lui. Donc ça, c'est déjà sur la méthode. Sur l'accumulation, sur le texte lui-même, il y a une idée qui est fondamentale chez Rosa Luxembourg et qui correspond à l'époque à laquelle elle écrit ça, qui est celle que l'impérialisme a une fonction dans l'histoire du capitalisme. L'impérialisme, elle sert en fait à renforcer l'accumulation du centre capitaliste, hein, c'est-à-dire des pays les plus développés, par évidemment l'exploitation des richesses et des marchés de ce qu'elle, elle appelle un peu l'en-dehors du capital, hein, c'est-à-dire des régions qui n'ont pas encore le niveau de développement capitaliste des centres. Et donc, elle montre que, en fait, pour réaliser cette accumulation, il faut, en fait, que le capital s'appuie sur des zones qui sont moins développées ou qui sont, en fait, dans un état de développement capitaliste, on va dire, moins avancé. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit moins avancé sur le plan, évidemment, culturel et social, loin de là. Mais du coup, c'est vrai qu'on revoit aujourd'hui quand même la renaissance d'un impérialisme, d'une forme d'impérialisme capitaliste qui ressemble quand même étrangement à ce qui était le cas lorsque Rosa Luxembourg écrit ce texte en 1912-1913, c'est-à-dire des forces capitalistes en concurrence qui s'opposent et qui sont prêts en fait à entrer dans une guerre ouverte pour en fait sécuriser des accès aux richesses, aux marchés, aux ressources. Et ça, quand même, c'est quelque chose que l'on voit. Alors, ça n'a jamais cessé dans le capitalisme, hein, et c'est là où Rosa Luxembourg est aussi très forte. Mais c'est vrai que, en tout cas, on a aujourd'hui, comme en 1914, non pas deux blocs comme pendant la guerre froide, mais un développement des impérialismes, l'impérialisme chinois, russe, même des petits impérialismes, entre guillemets, hein, comme celui de la Turquie, par exemple. Et en fait, la construction de zones d'influence où les pays qui font partie de cette zone d'influence sont en fait vassalisés et ont une fonction dans la division du travail de ce bloc. C'est exactement ce que Rosa Luxembourg raconte en fait dans l'accumulation du capital. Hein. Les blocs impérialistes ont des organisations internes et en fait elles visent à se suffire à eux-mêmes. Évidemment, ils ne se suffisent jamais à eux-mêmes, donc ils sont en expansion. Et en étant en expansion, eh bien, ils entrent en fait en conflit avec les autres impérialismes. Typiquement, sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, il y a un enjeu d'accès aux ressources énergétiques, minérales, qui est important, mais aussi de travail bon marché. Hein, et on voit qu'il y a une concurrence très forte qui est en train de se structurer entre les États-Unis et la Chine autour de cette question-là. Et qui explique en partie la guerre en Iran, par exemple, mais aussi les tensions autour de Taïwan, qui est le premier producteur de semi-conducteurs. Donc voilà. Tout ça, en fait, ça nous invite, à mon avis, à relire ce texte de Rosa Luxembourg, à essayer de comprendre. Alors, il faut le réactualiser, hein. On n'est pas, évidemment, en 1913 exactement, mais tout de même, il y a cet élément-là du retour de la pensée impériale et la première à penser l'impérialisme avant Lénine. Hein. On parle toujours du texte de Lénine, mais bien avant Lénine, enfin bien avant Lénine, deux ans avant Lénine, et je dirais de façon plus systématique que Lénine et de façon plus pointue et aussi en réfléchissant à l'état global et aux logiques de dynamique de l'accumulation du capital, eh ben, il y avait Rosa Luxembourg qui est la source en fait, de la pensée sur l'impérialisme.
Elle s'est faite ramasser par un paquet d'hommes, on ne le dira jamais assez, mais tu l'as bien dit dans ton livre, et elle leur a répondu, parce qu'elle était d'un courage inouï, elle leur a répondu point par point. Ouais. Elle s'est défendue bec et ongles.
C'est ce qui est assez fabuleux chez Rosa Luxembourg, c'est qu'elle est... c'est une combattante, c'est-à-dire qu'elle combat, elle va sur le terrain, c'est-à-dire la révolution de 1905, elle retourne en Russie, en Pologne, pour faire partie en fait de ce mouvement-là. Elle va évidemment, alors qu'elle est réticente, participer au soulèvement spartakiste en janvier 1919. Mais c'est aussi vrai dans le combat intellectuel, c'est-à-dire qu'elle a mené son premier combat, hein, c'est le combat contre le révisionnisme de Bernstein, hein, qui donnera toute la pensée social-démocrate contemporaine, et elle répond exactement de la même façon que vous le dites, c'est-à-dire elle va répondre point par point au texte de Bernstein, en le démontant, et effectivement, elle a cette capacité à mener des combats, et elle va le faire pendant toute la Première Guerre mondiale, sur la question de l'internationalisme, ce qu'on appelle en France l'union sacrée, hein, qui va évidemment fracturer la social-démocratie européenne, et elle va être une des rares au sein de cette social-démocratie à porter l'opposition à la guerre, précisément parce que, en fait, c'est le fruit de son texte de 1912. C'est-à-dire, elle sait que cette guerre est le produit de l'impérialisme et donc du développement du capitalisme. Et donc, pour elle, comme pour Liebknecht, hein, c'est un mot de Liebknecht, c'est pas un mot de Rosa Luxembourg, mais la guerre, la seule guerre qu'elle connaît, c'est la guerre contre les capitalistes et non pas la guerre entre les travailleurs. Peuples.
Voilà. Alors, un de ceux qui n'aimait pas Rosa Luxembourg, c'est Anton Pankuk.
Pankuk, oui.
Pankuk. Alors, néerlandais, astrophysicien, il a même un nom, on a même donné son nom à un cratère.
Un petit cratère qui est sur la face cachée de la Lune, donc on ne le voit jamais. Mais enfin, il a eu une vraie carrière d'astrophysicien, été d'astronome, en tout cas, on ne disait pas encore astrophysicien.
Il est licencié de Harvard, s'il vous plaît.
Il a été de docteur honoris causa, oui, à Harvard.
Bon, alors...
Comment il a fait pour voir la face cachée de la Lune?
Non, ça c'est en fait après ça, quand on a photographié la face cachée de la Lune, on a donné des noms en fait au cratère de la face cachée.
Pour des vedettes.
Et donc
on lui a
attribué, c'est l'Union internationale d'astronomie qui lui a attribué.
D'où le titre du chapitre de la Terre à la Lune en passant par les conseils ouvriers.
Oui, parce que c'est vrai que Pankuk a une opposition avec Rosa Luxembourg, notamment sur l'accumulation du capital, sur la relecture, ce que je disais, du livre 2, ce sont des choses assez techniques, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais il y a quelque chose où Rosa Luxembourg et Pankuk se rejoignent, c'est qu'ils sont persuadés que la révolution, ça se fait par le bas. Mmh. Ça ne se fait pas par le haut, par une avant-garde consciente qui prendrait le pouvoir et qui, en quelque sorte, diffuserait la bonne parole dans le reste de la société. Pankuk, comme Rosa Luxembourg, alors, par des moyens différents, on pourra y revenir si vous voulez, mais Pankuk, lui, est un penseur des conseils ouvriers, hein, ces mouvements qui vont surgir à partir de 1917 en Russie, mais qui vont ensuite se répandre en Allemagne, puis dans toute l'Europe, dans les années 1919 jusque au début des années 1920. Et Pankuk, lui, il comprend qu'en fait, dans ces conseils ouvriers, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui est que les ouvriers prennent le contrôle de la société. Évidemment, d'une partie de la société, puisque ce sont des conseils qui se font soit des soldats démobilisés, soit des paysans, soit des ouvriers dans des usines. Mais en fait, il se passe quelque chose où ils se débarrassent du centre de la société, hein, qui est en fait le capital et l'accumulation du capital. Et donc, en fait, ils comprennent qu'ils peuvent organiser la société, qu'ils n'ont pas besoin du capital pour organiser la société. Et ils comprennent qu'il faut se battre, en fait, pour ça. Et donc, lui, il est très attaché à ça parce qu'il est persuadé que, effectivement, la bascule vers le socialisme n'est pas seulement une question d'institution, mais que c'est en fait un changement anthropologique. C'est en fait un changement qui induit un changement d'humanité, en quelque sorte. Et ce changement d'humanité, il ne peut pas se faire, en fait, à partir du haut, en fait. Pour lui, ça, c'est... En fait, quand on le fait à partir du haut, on le fait à partir du point de départ de la société actuelle, qui est son centre bourgeois. Et donc, le faire à partir du haut, c'est imposer, en fait, la société, une autre forme de société bourgeoise, mais sauvegarder la société bourgeoise. Il aura d'ailleurs, il est très, en cela, effectivement, très fortement anti-léniniste. Hein. Il s'est opposé à Lénine avant la Première Guerre mondiale, mais beaucoup, évidemment, après. Et à la fin des années 30, il y écrira un texte qui s'appelle « Lénine philosophe
». Où il descend.
Il écrira ça. Il écrira que, en fait, cette démarche d'avant-garde, c'est une démarche, hein, qui est le produit du kotskisme, c'est-à-dire de la lecture social-démocrate allemande de Marx, où en gros les intérêts de la classe ouvrière, sont pris en charge par une élite bourgeoise qui va définir les besoins et les intérêts de la classe ouvrière elle-même. Et pour Pankouk, ça, c'est pas possible, en fait. Ce sont les ouvriers qui feront la révolution et qui définiront eux-mêmes leurs bourgeois, leurs intérêts et leurs besoins. Ça, ouais. Et il a, pour ça, quelque chose que moi, j'aime, enfin, moi, j'aime beaucoup Pankouk et je trouve qu'il est très attachant. Parce qu'il a cette modestie, alors que bon, c'est un grand savant, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur Pankouk, une pensée, des rapports entre la science et la révolution qui sont absolument passionnants. Il a écrit un texte sur le darwinisme à la fin des années 1900. Il a écrit un texte dès 1904 sur la destruction de la nature par le capital. Bon, c'est quelqu'un vraiment de fabuleux, mais ce que je trouve le plus marquant, c'est vraiment cette modestie qu'il a. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il est bourgeois. Et donc, il dit, moi, je suis un bourgeois. Ce que je peux faire, c'est aider les ouvriers à, ici ou là, se structurer, ouvrir les yeux, prendre de la conscience, etc. Mais si les ouvriers, eux, ne veulent pas faire la révolution, c'est pas moi qui vais la faire à leur place. Et en fait, il dit même, si les ouvriers ne veulent pas faire la révolution, il n'y aura tout simplement pas de révolution. Et c'est là où c'est extrêmement important, parce que pour lui, les conseils ouvriers, c'est un outil qui permet de faire la révolution, mais c'est pas un outil qu'il faut fétichiser. Hein. Il y a un mouvement conseilliste qui s'est développé ensuite, qui a souvent eu, on lui a fait ce reproche, un peu de fétichiser, il suffit de faire un conseil ouvrier, puis hop, ça y est, c'est la révolution. Bon. Et Pankouk, lui, il n'a pas cette option-là. Et il dit, en fait, c'est le fruit d'une pratique révolutionnaire qui débouche en fait sur la construction d'une nouvelle société. Construire une nouvelle société, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile. Et il aura, à la fin de sa vie, en 1952, un mot que moi je trouve fabuleux et qui me hante, pour tout vous dire, qui est que quand je parle de conseil ouvrier, je n'offre pas des solutions, mais j'offre des problèmes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, parce que, en fait, changer de société, faire la révolution, c'est-à-dire changer de société, c'est ça que ça veut dire, faire la révolution, hein. Ben, en fait, c'est pas c'est une solution au problème de la société actuelle, mais ouais. C'est en fait une série de problèmes considérables. Et c'est une série de problèmes considérables avec la différence que désormais, et c'est ça, en fait, le socialisme pour la plupart, en fait, de ces auteurs que je mets en avant, ben, en fait, c'est un changement de société qui est conscient, c'est-à-dire ce sont les hommes qui font, pour peut-être la première fois de l'histoire, qui font la société eux-mêmes. C'est pas une élite qui construit la société. C'est pas un principe abstrait, religieux ou capitaliste qui construit la société. Ce sont les hommes qui construisent la société eux-mêmes. Et Pankouk, lui, il a cette conviction-là. Alors, il va écrire au début des années 40 un petit texte qui s'appelle « Les conseils ouvriers », qui, j'ai vu chez Publico, d'ailleurs, est encore disponible. Et donc,
tout à fait. C'est les deux parties.
Exactement, il y a deux parties. Et c'est une sorte d'utopie, mais c'est une utopie réaliste. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire « je vous offre un guide clé en main de ce qu'il faut faire ». C'est de montrer montrer aux travailleurs qu'on peut construire la société autrement. Donc, c'est se projeter, mais sans, évidemment, l'écrire à l'inverse. C'est simplement faire à l'avance. C'est faire comprendre que, en fait, la société, c'est quelque chose qui est constitué d'hommes et ce qui... Et donc, on peut imaginer une autre société. Ensuite, ce n'est pas cette société-là exactement qui va se construire. C'est la pratique des ouvriers qui évidemment construira, enfin des ouvriers, des travailleurs qui se constitueront en conseil pour Pankouk, qui décidera de l'organisation sociale. Mais voilà, il se concevait comme celui qui pouvait aider en fait à ce saut anthropologique. Mais évidemment, c'est pas lui qui allait prendre les ouvriers par la main pour les conduire là où lui voudrait les conduire. Et je trouve que c'est un auteur qui n'est pas complètement inconnu quand même, mais qui mériterait d'être un peu plus travaillé, discuté parmi les mouvements émancipateurs.
C'est noté, et grâce à toi, ça sera fait. Alors, nous allons demander à Kendong une pause, et nous allons revenir sur un autre extraordinaire que j'ai découvert, Autorouleux.
la 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûlé?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique,
ouais,
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais
la,
alors...
la la. La, 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 la,
non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. Tout à fait normal, c'est l'attraction terrestre. La...
D'accord.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais,
le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends?
Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne. Alors, sur le net, c'est radio-libertaire.org. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Romaré Godin pour parler de, pour penser l'émancipation autrement, oui, marxiste hétérodoxe. Alors, dans cette partie, nous allons commencer par Otto Rouleux.
Alors, Otto Rouleux, c'est...
sans compromis et sans parti.
Oui, c'est un penseur que je trouve intéressant et qui, à mon avis, intéressera beaucoup les auditeurs de Radio Libertaire parce qu'il
oui.
est, il est véritablement à la jonction hein, entre le marxisme et l'anarchie. C'est un penseur, c'est aussi ce qui fait son intérêt à mon sens, c'est un penseur vraiment marxiste, c'est-à-dire qu'il pense avec Marx, il pense notamment l'économie, c'est quelque chose qui est important pour lui, de penser les dynamiques du capital. Il a écrit un livre extrêmement important, malheureusement qui n'est pas disponible, mais au début des années 30, donc au moment de la grande crise qui a suivi le krach de 29, sur le capitalisme d'État. Donc c'est un penseur du capitalisme d'État, de comment l'État en fait vient au secours du capital ou se mélange avec le capital. C'est vraiment un penseur très important de ce point de vue-là, et c'est un penseur qui justement va centrer sa pensée. Alors c'est intéressant parce qu'il est par ailleurs un spécialiste de la psychologie enfantine. Il a aussi fait avec son épouse une contribution importante à cette discipline-là. Et c'est véritablement quelqu'un qui réfléchit aux moyens d'émanciper les masses. C'est-à-dire, pour lui, vraiment, le capital est cette prison dans laquelle l'homme se trouve sous le capitalisme. Et ça, son idée centrale, c'est comment on peut se débarrasser de ces chaînes, en quelque sorte. Et lui, donc, qui a été député hein, de la social-démocratie, élu en 1912.
Il a, avec Karl Liebknecht, il vote contre les crédits de guerre.
C'est le deuxième à avoir voté contre les crédits de guerre. Hein. Alors on sait, là, les crédits de guerre, le 4 août, en fait, tout le monde, tout le groupe social-démocrate a voté pour les crédits de guerre parce qu'il y avait une discipline de parti et que ni Liebknecht ni Rühle à ce moment-là n'ont osé, en fait, aller contre la discipline de parti. Mais en décembre, Liebknecht vote contre, Rühle s'abstient. Et en mars, il est le deuxième, avec Liebknecht, à voter contre les crédits de guerre allemands. Ce qui lui vaudra, évidemment, bien sûr, l'exclusion du Parti social-démocrate et un peu de prison pendant la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, je crois qu'il va être aussi envoyé au front. Et c'est vrai qu'il a cette idée que... Enfin, l'expérience de la guerre plus l'expérience des conseils, là encore, qui est fondamentale pour Rühle, lui fait dire que, ben, en fait, cette émancipation, elle ne peut pas passer par l'État, en fait. On ne peut pas passer par cette phase étatique. Hein. Vous savez, il y a une grande discussion chez les marxistes, est-ce que sur cette idée du dépérissement de l'État. Et pour Rühle, en fait, ce qui va... Enfin, utiliser l'État, utiliser un parti, en fait, c'est en fait faire perdurer cette prison, ces chaînes, qui sont en fait les chaînes du système. Et y compris des partis anti-parlementaires, d'ailleurs. Hein. Il a été membre du KAPD, qui était le parti scission du Parti communiste conseilliste. Et lui-même va le quitter parce que, en fait, il sent bien que tout ce qui est organisation, et ça rejoint évidemment toute l'idée anarchique du pouvoir qui corrompt, hein, en fait, pour lui, toutes ces organisations créent du pouvoir, et ce pouvoir, en fait, est fondamentalement conservateur. Et donc, il va développer une idée hein, qui va rejeter complètement l'idée de parti, d'organisation capable de faire ou d'aider à la révolution. Alors, en ça, il est très différent de quelqu'un comme Pankouk, par exemple, qui restera attaché, même s'il a été très critique sur les partis conseillistes, qui restera attaché à cette idée qu'il y a quand même besoin d'une organisation pour se structurer, etc. Rühle, lui, il considère que précisément parce que la révolution, elle doit se faire par le bas, eh bien, elle se fait d'abord par la pratique et elle se fait par le rejet de tous les pouvoirs, parce que dans ce système capitaliste, tous les pouvoirs sont reliés directement ou indirectement au capital. Et donc vouloir en fait faire abattre le capital en ayant recours à un pouvoir institutionnel, quel qu'il soit, bah, en fait c'est faire rentrer un peu du capital dans le combat révolutionnaire, et donc c'est perdre en fait. Donc Rühle, il va développer cette idée-là, et il va être en cela extraordinairement critique de la révolution russe, de son évolution. Il y voit un capitalisme d'État, donc ça c'est quelque chose qui va être important parce que ça va être repris par beaucoup de penseurs de la gauche marxiste. Hein, l'idée que effectivement ce qui s'est joué en Russie, le soviétisme pour aller le stalinisme puis le post-stalinisme vont être en fait des capitalismes d'État. Et Rühle va véritablement défendre cette idée-là. Il va le développer. Il va faire en fait fait du combat contre le soviétisme, bah, l'équivalent en fait du combat contre le fascisme. Il va quitter l'Allemagne, évidemment, après l'arrivée des nazis au pouvoir. Il va se réfugier finalement au Mexique.
Où il va mourir.
Où il va mourir de mémoire, je crois, c'est en 1938.
En
43, pardon, c'est après Trotsky, donc. Et effectivement, il va participer à la commission la commission Dewey, examinait les accusations de Staline contre Trotsky, alors qu'il n'était pas du tout trotskiste. Mais voilà, vraiment, il y a chez lui cette idée qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans la révolution, dans le régime soviétique, parce que c'est un régime qui se présente comme révolutionnaire et qui est réactionnaire. Et donc c'est un régime qui fait faire en fait un retour en arrière à la cause révolutionnaire, à la cause de l'émancipation.
Ça, il dit qu'il y a trois variations dans le capitalisme. Il y a le russe, il y a le privé, il y a le mixte. Ça, c'est, tu le démontres très brillamment dans ton... Oh, c'est un bonheur, ce livre. Vraiment. Donc, toutes ces analyses font qu'aujourd'hui, vraiment, il a eu raison sur ces trois formes de capitalisme. Et on peut et son contempteur, c'est un certain Paul Matic, qu'on verra en dernier, qui a fait un travail remarquable pour le remettre au goût du jour. Alors, Grossman.
Alors, Grossman, il est un peu différent, en fait, des autres, parce qu'il a cette particularité, Grossman, d'avoir toujours été, en fait... marxiste-léniniste, en fait. Il a été membre du Parti communiste, d'abord du Parti socialiste. Il est issu de la région de Cracovie, donc il a été membre du Parti socialiste juif. Il est juif de cette région. Ensuite, il a participé à la création du Parti socialiste polonais. Puis, il est allé en Allemagne, puisqu'il a été, il y a eu évidemment une répression en Pologne à cette époque-là. Il est allé en Allemagne. Il a été membre du Parti communiste allemand. Et il a toujours été membre du Parti communiste allemand. Il est mort en RDA. Il est revenu, en fait, il a été en exil aux États-Unis après le nazisme. Il est revenu. Il s'est installé pendant un an à Dresde, où on lui a donné un modeste poste de professeur à l'université de Dresde. Donc il a cet élément un peu particulier. C'est le seul, on parlera de Lukács après, mais c'est le seul à avoir été véritablement toujours cohérent de ce point de vue-là. Mais il a créé, il a quand même, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a développé une pensée qui a toujours été en opposition avec l'orthodoxie stalinienne. Et donc sa pensée, c'est...
la lutte des classes.
L'élément central de sa pensée, lui, ce qui l'intéresse, on avait parlé de Rosa Luxembourg et du livre 2, lui, ce qui l'intéresse, c'est le livre 3 du Capital, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Et donc, il va écrire un livre en 1929 qui s'appelle...
La théorie des crises économiques.
Voilà, le titre est très long, donc je vais pas le donner, parce qu'en plus j'ai le titre en allemand, je me souviens plus comment on le traduit. L'effondrement du capitalisme ou une théorie de l'accumulation. Bon, bref, peu importe. Lui, son idée, c'est de montrer que effectivement le capitalisme est toujours soumis à cette baisse tendancielle du taux de profit et qu'il est en risque en fait d'effondrement et qu'en fait pour toujours continuer à survivre, il renforce évidemment la pression sur l'exploitation du travail. Et donc, ce que dit Grossman, qui écrit ce texte quelques mois avant la crise de 1929, il dit, arrive un moment dans l'histoire du capitalisme où la pression sur le travail, elle va être... considérable, parce que c'est en fait ce qui permettra au capitalisme de continuer à produire de la valeur. Ça peut continuer tant que la lutte de classe ne prend pas le relais et ne mène pas en fait à un changement de société. Donc effectivement, pour Grossman, la centralité de la lutte de classe, elle est extrêmement importante. Et ce que je trouve, alors c'était évidemment opposé à la doctrine marxiste-léniniste de l'époque, qui considérait que le capitalisme allait tomber comme un fruit trop mûr, et que donc ce qu'il fallait, c'était plutôt en fait préparer cet effondrement pour pouvoir se saisir du pouvoir en bon léniniste, en faisant un petit coup d'État ou par les urnes.
Coup d'État par les urnes, j'adore.
Ou par les urnes. les deux n'étant pas exclusifs l'un de l'autre. Mais voilà, Grossman, lui, il est resté sur cette idée-là, et c'est quelque chose qui est extrêmement, à mon sens, moi, encore une fois, alors ça, c'est, il y a des gens, y compris au sein du marxisme, beaucoup au sein du marxisme, ne sont pas du tout d'accord avec moi là-dessus, mais moi, je pense que c'est une pensée qui est extrêmement contemporaine, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, le capitalisme est en phase aujourd'hui d'épuisement, et donc, il renforce son aspect destructeur et son exploitation des hommes, et de la nature. Alors Grossman n'y réfléchissait pas en termes de nature, mais je pense que sa pensée, elle nous permet en fait de saisir ça, et elle nous permet de saisir l'urgence de fait de la lutte des classes. Et là, on peut réintégrer d'autres penseurs, disons moins orthodoxes que Grossman, comme Panikouk ou Rouleau, pour réaliser cette lutte des classes.
Tout à fait. Alors, Lénine disait, il n'y a aucune situation désespérée pour le capitalisme. Le capitalisme ne s'effondrera que si le capitalisme perde la lutte des classes. Ça, c'est Grossman qui le dit.
Oui, donc, parce que encore une fois, il n'y a pas de raison, et je pense que c'est aussi une vision. C'est aussi un élément qui est commun aux huit. Hein, c'est qu'ils ont une vision historique du capitalisme.
Voilà.
Et c'est central, cette vision historique. Là aussi, c'est des débats au sein du marxisme, mais voilà, eux, ils ont une vision extrêmement historique du capitalisme. Et pour Grossman, c'est évident. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde, par exemple, le mode de production féodal, bah, on voit qu'il a beaucoup évolué, évidemment. Et, le XIIe siècle, c'est pas 1788. Donc, voilà, il s'adapte. Les modes de production, les modes de domination s'adaptent, en fait. Ils s'adaptent à leur propre épuisement, ils s'adaptent aux oppositions internes, externes, voilà. Donc, il n'y a pas de raison de croire que les choses tombent comme un fruit mûr. Et non. Encore une fois, si le féodalisme n'avait pas été abattu directement par des soulèvements populaires, par des têtes qui tombent, en fait, il serait encore là et il aurait trouvé d'autres façons. Et voilà. Donc, c'est un peu l'idée que essaye aussi de faire passer Grossman. C'est-à-dire, il faut, en fait, placer l'agentivité des hommes avant les mécanismes économiques et les automatismes, on va dire, liés au mode de production.
Alors, la dernière figure que l'on va examiner dans cette partie, c'est une femme. Et une femme dont le dernier combat, ce serait d'avoir une statue en Angleterre. Voilà.
Exactement.
Sylvia Pankhurst. Alors, tu commences ton chapitre sur elle par l'arrivée de Haïlé Sélassié en gare de New York.
De Londres dans la gare de Waterloo.
Oui, dans la gare de Waterloo. Ah, mais c'est prodigieux. J'avoue que j'avais lu des choses sur elle, mais je n'avais pas percuté à quel point l'agression de l'Éthiopie par l'Italie a été un point d'orgue pour elle et pour se lancer pour justement la lutte contre le colonialisme et contre l'antisémitisme et le racisme à ce point-là. Alors que ça, elle a fait la convergence de toutes les luttes. Ça a été formidable.
C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce portrait, parce que c'est pas une grande intellectuelle au sens où elle a pas écrit comme Rosa Luxembourg une grande œuvre théorique, etc. C'est pas une théoricienne. C'est une intellectuelle, mais c'est pas une théoricienne. En revanche, c'est une combattante incroyable. C'est-à-dire qu'elle commence son combat parce que c'est le combat aussi de sa famille. Hein. C'est une suffragette. Elle commence le combat pour le droit de vote des femmes dans l'Angleterre. Du début du XXe siècle, et là aussi on a un peu de mal à se rendre compte, mais il y a une répression policière et
avec
sociale,
un ministre de l'Intérieur, un certain Churchill,
exactement,
qui
pratique toujours au bon
la
endroit.
Loi du chat et de la souris, et ça tu peux l'expliquer, la loi du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'elles étaient emprisonnées, elles faisaient des grèves de la faim, quand elles allaient mieux, on les libérait, quand elles allaient mieux, on les remettait en prison.
Exactement, c'est ça, en fait, l'idée c'était de les laisser le moins possible pouvoir être présente dans l'espace public. Voilà. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la, l'idée, à ce moment-là, des hommes au pouvoir dans le Royaume-Uni de cette époque-là, c'est de rendre invisibles les femmes. Et ça justifie l'absence de droit de vote des femmes. Elles sont pas là. Donc, évidemment, elles, l'idée, c'était précisément d'être là. C'est aussi pour ça qu'il y avait toute une agite propre, hein, on va dire, qu'elles faisaient et qui était formidable. Ouais. Mais c'était aussi pour se rendre visibles. Et évidemment, la réponse de quelqu'un comme Churchill, c'est de les rendre le moins visibles possible. Donc, on les enferme, on les laisse s'affaiblir. Quand elles sont très affaiblies, on les libère. Et quand elles vont mieux et qu'elles recommencent à faire un peu de bruit, hop, on les remet. Mmh. Et en fait, on les voit plus, du coup. Mais ce qui est intéressant chez Sylvia Pankhurst, hein, c'est qu'elle comprend assez vite, et notamment avec la Première Guerre mondiale, que en fait, ce combat pour le droit de vote, et ça, c'est ce qui va la différencier de sa mère et de sa sœur, hein, qui vont s'arrêter là et qui vont devenir en fait des politiciennes de droite, en fait, après, une fois que le droit de vote sera acquis en 1919, elle comprend qu'en fait, le droit de vote, c'était une petite marche dans l'émancipation. Et en fait, elle va aller dans les quartiers de l'Est londonien, les quartiers populaires, les docks, où il y a notamment déjà des minorités ethniques importantes, hein, notamment du sous-continent indien à l'époque, mais aussi d'Afrique orientale. Et elle va, en fait, se mêler à cette population.
Et être leur porte-parole.
Être leur porte-parole, écrire des journaux, hein, faire des journaux justement contre la guerre, contre l'appauvrissement, contre l'asservissement de ces populations qui en fait sont mises à contribution dans l'effort de guerre. Là aussi, on a un peu de mal à se rendre compte. Mais ce qu'on appelle l'économie de guerre, vous entendez aujourd'hui nos dirigeants faire l'éloge de l'économie de guerre, c'est un niveau d'asservissement et d'exploitation qui est inouï, évidemment. Et notamment, bien sûr, pour les minorités ou ce qui est perçu comme une minorité, c'est-à-dire les femmes, les personnes racisées, etc.
Et les enfants.
Et les enfants, bien sûr, évidemment. Et donc, elle va mener ça. Et après la guerre, elle va être une des figures du conseillisme parce qu'elle vit, en fait, avec les gens du bas. Et comme Pankhurst, elle va avoir ce sentiment que c'est eux qui vont pouvoir porter, en fait, leur propre émancipation. Et elle est une des cibles hein, de Lénine, du fameux pamphlet « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Il y a trois grandes cibles, Pankhurst et son ami Gorter, qui sont des Néerlandais, et Sylvia Pankhurst. Voilà. Et après, elle est exclue du Parti communiste britannique. Elle va se retirer un peu de la vie politique, jusqu'à ce qu'arrive effectivement, et je rejoins ce que vous venez de dire, hein, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. Et là, en fait, elle a ce sentiment, ça arrive un peu en même temps que la guerre d'Espagne. Et évidemment, y a une mobilisation autour de la guerre d'Espagne dans les milieux de gauche, libertaire, évidemment, qui est d'abord justifiée et immense. Et en fait, la cause de l'Éthiopie est un peu laissée de côté. On peut le comprendre, c'est-à-dire que l'Éthiopie, c'est un régime semi-féodal avec cet empereur.
Ce sont surtout des nègres, excuse-moi.
Mais exactement. Et c'est ce que dit, en fait, Sylvia Pankhurst. C'est qu'elle dit, en fait, c'est pas la question que, en fait, ce soit un régime semi-féodal avec un empereur, blablabla. C'est pas ça. C'est qu'en fait, vous vous en moquez parce que ce sont des Noirs. Et que pour vous, ça... Et en fait, elle va placer au cœur une bombe, en fait, au cœur de la gauche de cette époque-là, en disant, en sélectionnant vos causes, en fait, vous êtes montrez que vous êtes une gauche blanche et raciste. Et elle va vraiment se mettre tout le monde à dos et se dévouer à cette cause éthiopienne.
À tel point qu'elle va aller ensuite en Éthiopie et elle est enterrée là-bas.
Elle est enterrée à Addis Abeba, exactement. Voilà. Et c'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, elle est, je dirais... Alors, je ne connais pas très très bien l'Éthiopie, mais elle est plus considérée que l'ex-empereur qui, évidemment, avait mis en place un régime très discutable. Très. Mais elle, en tout cas, elle a fait ce lien et elle s'est jetée en fait, dans la défense de ce peuple et de ce pays.
Elle en a fait plus que l'empereur. Même.
Exactement. Et elle essayait de faire comprendre en fait, aux ouvriers occidentaux que la cause de l'Éthiopie était aussi la leur.
Tout à
fait. En fait, C'était vrai. Mmh. Autant que la cause espagnole était évidemment à l'époque la cause de l'ensemble de la classe ouvrière.
C'est ce qu'on appelle la convergence des causes. De toute façon, l'empereur d'Éthiopie préférait faire nourrir ses chiens que de faire nourrir la population. Donc,
Mais d'ailleurs, la scène que vous rapportez sur où elle l'accueille à la gare de Waterloo, la première chose qu'elle lui dit, elle lui dit « Je sais très bien qui vous êtes, je sais ce que vous représentez, mais... » Je crois que la cause que vous portez, elle est au-delà en fait, de votre personne. Et il faut aussi concevoir, hein, il y a cette scène inouïe à la Société des Nations où Haïlé Selassie va se faire insulter par le représentant italien dans le silence complet
De l'Occident.
Du reste des membres de la Société des Nations.
Oui, de l'Occident.
Et donc de l'Occident. Et on voit bien que voilà, il y a quelque chose qui donne raison là à Sylvia qui va en fait relancer son journal en faveur de l'Éthiopie et qui va essayer ça a pas trop marché, mais elle va quand même essayer.
Elle a essayé la convergence des causes et je fais partie des gens qui militent pour qu'elle ait sa statue à Londres. Donc, et tu en parles dans ton livre, et c'est une très bonne chose. Donc, on relance le combat. Le combat n'est pas terminé. Et dans ce chapitre, il y a des figures qu'elle rejoint, dont celle de Clara Zetkin. Non, mais c'est prodigieux. Tu lui donnes vie dans ce chapitre. Et ça fait très plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Bon, on va demander à Kendong une pause et on va revenir dans
la dernière. Peut-être en parler d'un encore, non ?
Non, parce que il y en a trois autres. Je te promets. On va demander une pause.
Thank you. one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah-smoking caterpillar has given you the call. He called Alice when she was so small. When the men on the chessboard
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Alors, courage, nous sommes dans la dernière partie de l'émission avec Romaré Godin. La dernière ligne droite. Et là, nous abordons le cas de Georges.
Alors, Georg, si on le dit à l'allemande, oui. Georg, si on le dit à la hongroise, et Georges, si on le dit à la française.
Georg Lukács, hongrois.
Lukács. Ouais.
Alors, Lukács, c'est un penseur qui est délicat, parce que lui, il a en fait écrit un grand texte en 1919 hein, qui s'appelle « Histoire et conscience de classe », qui a été mis à l'index par la pensée sociale marxiste-léniniste et social-démocrate aussi, mais marxiste-léniniste dès sa parution en 1923. Et Lukács, lui, il a fait le choix en fait de désavouer son texte, de faire de détruire son texte dans un autre texte. Il a fait son autocritique en fait, et il est allé à Moscou où il était un peu suspect, puis évidemment il s'est installé en RDA, il est retourné ensuite dans la Hongrie socialiste. Il a participé au gouvernement d'Imre Nagy en 1956 pendant le soulèvement contre les soviétiques, au gouvernement, et puis il a refait en fait une autocritique pour pouvoir réintégrer les instances, disons, pouvoir sortir en fait d'exil. Hein. Donc bon, c'est un personnage qui est, voilà, le dernier Lukács, c'est pas le premier Lukács, donc c'est, voilà. Moi je me concentre en fait sur le Lukács d'Histoire et conscience de classe, parce que je pense que c'est un texte qui est encore aujourd'hui absolument fondamental pour la lutte de classe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un texte qui est très influencé aussi par Rosa Luxembourg. Il y a dans Histoire et conscience de classe une dernière partie qui s'appelle Rosa Luxembourg révolutionnaire, hein, qui effectivement revient sur l'apport de la pensée de Luxembourg. Mais l'élément fondamental de la pensée de Lukács, hein, c'est de dire que finalement... la conscience de classe est nécessaire, évidemment, à la lutte de classe. C'est-à-dire que pour faire cette lutte de classe, il faut qu'en tant que classe, on soit conscient de cette division au sein de la société entre le travail et le capital. Que le travail porte en lui, évidemment, la possibilité de la construction d'un monde différent de celui qui est organisé par le capital. Et il le porte lui tout seul, parce que la bourgeoisie qui est propriétaire du capital, elle n'est pas capable d'envisager en fait une société en dehors de l'accumulation du capital, puisque en fait elle construit son essence, en fait sa substance autour de cette accumulation, et donc évidemment, il y a cette force formidable qui réside, cette potentialité qui réside dans le monde du travail, pour peu qu'effectivement il y ait une conscience. Et cette conscience, elle ne peut surgir que lorsque elle prend l'ensemble de la société en compte. C'est la grande force, le grand apport de Lukács, hein, c'est cette idée que, en fait, la pensée révolutionnaire est une pensée de la totalité. Et c'est pour ça que, en fait, le prolétariat, pour utiliser des gros mots, que le prolétariat est capable, en réalité, d'avoir cette fonction révolutionnaire. Il est capable d'avoir cette fonction révolutionnaire parce que, précisément, lui, il est capable de construire un monde en dehors du capital et que ce monde, il est capable de l'envisager dans sa totalité. Ce qui n'est pas possible pour la bourgeoisie, qui ne peut envisager le monde que par le prisme du capital et donc qui ne peut pas envisager le monde dans sa totalité, c'est-à-dire dans ce qui échappe au capital, les besoins qui échappent au capital, la nature qui échappe en fait à la logique du capital. Donc en fait, c'est une pensée qui est très moderne parce que précisément, c'est ce que moi je pense être fondamental en fait aujourd'hui, et ce qui manque en fait fondamentalement aujourd'hui à la pensée émancipatrice, c'est cette pensée de la totalité. C'est cette pensée en fait qui va aller attaquer le cœur du réacteur du capitalisme, qui est l'accumulation et la centralité sociale du capital. C'est une pensée qui s'attaque à la domination là où la domination se fait. Et c'est une pensée en même temps qui est très réaliste. C'est-à-dire que Lukács, il sait qu'au sein du prolétariat, il y a un conflit, en fait. Il y a un conflit entre le fait que le prolétariat, en fait, il participe à la valorisation du capital. Hein. La valorisation du capital, elle a pour base le travail vivant qui est fait par le prolétariat lui-même. Et donc, Lukács, il a cette idée fondamentale qui est, en fait, la conscience, elle se construit par la praxis, par la lutte. Hein. Et cette lutte, elle a deux fondements. La lutte contre la bourgeoisie, la lutte contre le capital, évidemment, mais aussi la lutte contre la part du prolétariat qui participe à la valorisation du capital. Et cette part, c'est pas une part de la société, hein, c'est pas une part du prolétariat au sens où il y aurait des prolétaires qui seraient méchants et puis des prolétaires qui seraient gentils, et c'est la lutte entre les deux. C'est quelque chose qui, en fait, traverse la société, traverse les travailleurs, et traverse les travailleurs, je dirais, presque de façon individuelle. Mmh. Et donc, effectivement, il y a cette conscience, elle se construit. Lukács, c'est un penseur qui remet du Hegel dans Marx, hein, qui redonne, c'est un penseur hegelien, post-hegelien, donc qui remet de la dialectique dans Marx, et c'est une pensée qui se construit dans la dialectique, et cette dialectique, elle se fait dans la pratique des luttes. Et c'est pour ça que Lukács, c'est aussi un penseur des conseils ouvriers d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il perçoit, lui, il a été ministre de la République des Soviets hongrois, qui par ailleurs peut être discuté dans sa pratique. Mais sa conviction, c'est, enfin, ce texte, il est issu de justement de ses propres erreurs. Il est issu aussi de ce qu'il a vu au sein des masses travailleuses. C'est que, en fait, cette pratique, eh bien, elle est dialectique. Elle se fait en fait en opposition aussi avec les réflexes qu'on a, qui sont des réflexes liés à l'aliénation. Et c'est là aussi où Lukács est extrêmement important, c'est que c'est quelqu'un, un des premiers à avoir remis le travail de l'aliénation au centre de la pensée marxiste, avant même que l'on redécouvre les manuscrits de 44 et évidemment le fait que Marx lui-même avait au début de sa pensée mis cette aliénation au cœur. Et donc c'est là où Lukács est extrêmement important aussi, c'est qu'il conçoit que la lutte, elle se fait sur ces deux pieds qui sont la lutte contre l'exploitation et la lutte contre l'aliénation. Si on voulait être vraiment schématique, on pourrait dire que la lutte contre l'exploitation, c'est la lutte contre le capital, la lutte contre l'aliénation, c'est la lutte contre nous-mêmes, mais ces deux pieds ensemble, qui sont par ailleurs eux-mêmes imbriqués, en fait, c'est ça, la lutte pour la totalité. La lutte pour la totalité, c'est la lutte qui, en fait, emporte la société capitaliste dans son entier, dans son entièreté. C'est une lutte contre la société capitaliste. Et c'est là où Lukács, à mon avis, est extrêmement important. Et ça aussi, ça peut parler aux auditeurs de Radio Libertaire, parce que c'est quelque chose qui est très présent aussi dans la pensée anarchiste, hein, cette lutte contre la société telle qu'elle est, contre la domination au sein de la société. Bah, en fait, l'idée de la lutte totale que porte Lukács, elle se construit en fait de la même manière sur ces deux piliers qui sont la lutte contre l'exploitation et la lutte contre l'aliénation.
Alors, dans la lutte contre l'aliénation de Lukács, est-ce qu'il attache une grande importance à l'éducation et à quelle est sa position sur la famille aussi?
Alors, Lukács, c'est pas un penseur de la société, c'est pas un sociologue, en fait. Lui, il écrit, c'est ça aussi qui est fabuleux quand on lit Histoire et conscience de classe, il faut le relire. C'est un texte qui est écrit au milieu d'un volcan, en fait, hein, au milieu d'un volcan qui est cette révolution pan-européenne. Et donc, lui, en fait, il porte surtout. Sa contestation porte surtout en fait sur la pratique en fait. Et lui, il se dit, il sait en fait que lorsque le prolétariat commence à engager cette lutte par le bas, c'est-à-dire cette lutte contre la société en général, eh ben en fait, il va entraîner toutes les formes sociales. Il va mettre en question toutes les formes sociales. Et donc, il n'y a pas de réflexion à proprement parler sur ces formes-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une contestation, évidemment, des formes sociales de domination de la bourgeoisie qui se transmettent, en fait, ensuite, évidemment, au prolétariat, dans lequel, sans doute, il y a les formes familiales et les formes éducatives. Mais évidemment, dans Histoire et conscience de classe en tant que telle, c'est pas complètement ignoré, c'est pas quelque chose de central. Lui, c'est vraiment en fait cette lutte quotidienne, ce feu révolutionnaire en fait, hein, qui permet d'emporter les choses. Après, Lukács, il va aussi, enfin cette pensée de la contestation de la totalité, elle va aussi venir alimenter d'autres réflexions. Quelqu'un comme Rouleau va, lui, réfléchir beaucoup à ces questions de rapport à la famille, etc. Alors, Rouleau n'est pas Lukácsien du tout, mais voilà, tout ça est lié, parce que, en fait, quand on déclare la guerre à la société dans son ensemble, on déclare la guerre à beaucoup de formes, en fait, de que prenne la domination de cette société, y compris celle-là.
Alors, le pendant de Lukács, ça va être Monsieur Karl Korsch.
Ouais. Alors Karl Korsch, ils ont quelque chose, beaucoup de choses en commun.
Voilà.
D'abord, bon,
décongeler le marxisme.
Ils se connaissent et en fait, ce sont des gens qui ont découvert le marxisme assez tard. Lukács, jusqu'en fin 1918, hein, c'est un philosophe qui participe aux causeries à Budapest. C'est un philosophe néo-kantien qui discute avec toute l'intelligentsia budapestoise. Korsch, c'est un juriste. Il a fait une thèse de droit à l'université d'Iéna. Donc ce sont des intellectuels assez respectables. Voilà. Puis ce sont des gens qui vont découvrir Marx, en fait, à travers la révolution russe, parce qu'il faut quand même, on critique beaucoup ici le léninisme, etc., mais il faut aussi se rendre compte que à l'époque, vu de là où on était, on n'a pas les mêmes
perceptions,
modes de communication qu'aujourd'hui. La révolution russe, c'est une déflagration énorme, et en fait ça amène beaucoup de gens à s'intéresser à des choses qui ne les intéressaient pas avant, et notamment au marxisme, en fait. Et donc on raconte, hein, que Lukács s'est converti au marxisme en une semaine. Il est revenu dans son cercle budapestois et les gens étaient effrayés parce qu'il ne citait que Marx.
Bon, c'est une forme de jeunesse de caractère.
Exactement.
C'est tout à son honneur.
Exactement. Et alors Korsch, c'est un peu ça, il va découvrir en fait le marxisme à travers la révolution russe, il va être membre du parti communiste allemand, et il va participer notamment à un gouvernement d'union entre les sociaux-démocrates et les communistes en 1923 en Thuringe, où il va être ministre de la Justice, mais quelques jours, puisque le président du Reich à l'époque, Friedrich Ebert, un social-démocrate aussi, va en fait faire ce qu'on appelle les il va réunir par décret de loi, il va suspendre en fait la Constitution et il va envoyer l'armée pour balayer les deux gouvernements d'union sociaux-démocrate communiste qui avaient eu lieu en Thuringe et en Saxe. Et donc Korsch quitte cette position et il va aussi du coup lui s'interroger sur ce qui s'est passé sur ces six années qui vont de 1918 à 1924 et il va publier en 1923 au même moment d'ailleurs que Histoire et conscience de classe un texte qui s'appelle Marxisme et philosophie qui est un texte important parce que justement il va réfléchir à cette dialectique entre la pensée et la pratique hein, la théorie, la pratique comme on dit voilà. C'est quelqu'un qui va expliquer que en fait la théorie elle est aussi importante que la pratique, c'est-à-dire qu'une pratique sans théorie en fait, ça finit souvent par de la répression et puis par des choses un peu sans queue ni tête, parce qu'en fait, on ne sait pas où on va, en fait. Donc, en fait, la pratique révolutionnaire, hein, c'est le système des jacqueries, en fait. On n'est pas content, on se soulève, et puis après, on ne sait plus quoi faire, donc on rend le pouvoir à ceux à qui on l'a pris, en fait. Et puis, la théorie sans pratique, la théorie sans pratique, c'est les intellectuels dans leur tour d'ivoire, et ça ne donne rien. Et lui, il explique qu'en fait, l'enjeu, c'est de trouver la bonne pratique pour la bonne théorie et la bonne théorie pour la bonne pratique en fonction des conditions matérielles existantes, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire chez Korsch, c'est que Korsch, c'est véritablement quelqu'un qui porte le marxisme à un niveau d'historicité unique, en fait. Y compris, d'ailleurs, contre le marxisme lui-même. Et c'est ça qui est remarquable, c'est que, en fait, dans la continuité de sa pensée, il va, en fait, soumettre le marxisme à la pratique marxiste, c'est-à-dire au matérialisme historique. C'est-à-dire, il va dire, en fait, est-ce que le marxisme est encore valable au moment où on parle? Est-ce que c'est encore un outil qui est important? Qu'est-ce que les évolutions du marxisme nous disent, en fait, sur la pensée de Marx elle-même et ce qu'on peut en faire? Donc, c'est quelqu'un qui va mettre un peu de l'acide sur la pensée marxiste. Et c'est pour ça que c'est aussi quelqu'un qui a une méthode qui est extraordinaire. Et lui aussi va écrire un peu comme Pankouk a un texte contre Lénine, où il va expliquer que, précisément, la pensée léniniste, c'est une pensée qui congèle, comme je le dis dans le théâtre, qui congèle en fait le marxisme, qui en fait effectivement une sorte de bible valable de tout temps, etc. Alors que précisément, la pensée de Marx et le point de départ de Marx, c'est de dire le capitalisme est une forme historique et que, en fait, l'histoire, réinjecter de l'histoire dans la pensée, c'est en fait rendre le capitalisme discutable, et donc c'est l'affaiblir en quelque sorte. Et donc cette méthode historique que Korsch va mettre en place à travers un concept qu'il appelle le concept de la spécificité historique, qui permet en fait de saisir le moment dans lequel on est et donc les moyens de l'action et de la théorie pour pouvoir confronter la domination en place, c'est un peu le summum de la pensée philosophique marxiste, au sens où le marxisme est une pensée historique. Donc Korsch, c'est un penseur qui est extrêmement important. Évidemment, marxisme et philosophie va être mis à l'index par à la fois les sociodémocrates, et il va écrire un très bon livre d'ailleurs contre Kautsky, qui est le penseur social-démocrate par excellence, on en a déjà parlé, qui s'appelle l'Anti-Kautsky, et qui est un livre extraordinaire qui n'est pas du tout disponible, qui a été traduit par Champ Libre dans les années 70, mais peut-être qu'à Publico, par exemple, on peut le retrouver. Mais c'est un texte que je recommande vraiment à tous les auditeurs, parce que, en fait, quand on lit, on a des antidotes contre toute la social-démocratie contemporaine et toutes les illusions de la social-démocratie contemporaine.
Merci.
C'est vraiment quelque chose que
alors ça, que je tout le monde va se précipiter pour le lire avec ce genre de recommandations. On va finir par un dernier, le dernier, Paul Matic, que tu as qualifié d'ouvrier, chômeur et théoricien.
Ouais.
Il est très émouvant, Paul Matic.
Ouais, c'est un personnage vraiment remarquable, et c'est vraiment, en fait, la, c'est le dernier,
oui.
Mais la série part un peu de lui, en fait.
Hein. Tout
c'était
à fait.
La première, c'était chronologiquement mon premier portrait dans Mediapart en 2020, où j'avais effectivement fait ce portrait. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un peu la synthèse de tous ceux dont on parle. Hein.
Oui.
C'est à la fois quelqu'un qui a une pratique, en fait, incroyable de la Révolution, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à 14 ans, est sur les barricades à Berlin, participe au Conseil, alors qu'il est ouvrier, jeune ouvrier, et il est déjà, en fait, en plein dans la lutte, il va participer...
À la marche des chômeurs aux États-Unis.
Ensuite, donc, il va partir aux États-Unis parce qu'il n'a plus de moyens de vivre, donc il va essayer d'aller vivre aux États-Unis, il a vaguement de la famille là-bas, il s'installe à Chicago, il arrive en 1928, donc évidemment arrive la crise, il est chômeur et il essaye d'organiser comme il le peut les chômeurs américains à ce moment-là, notamment à Chicago, contre l'influence aussi du Parti communiste,
hein,
parce que le Parti communiste des États-Unis, à ce moment-là, essaye de développer aussi son influence dans les milieux chômeurs. On a du mal aussi à s'en rendre compte, mais le chômage aux États-Unis à l'époque est considérable.
C'est colossal.
Ce sont des masses évidemment considérables avec l'absence d'assurance chômage presque. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont laissés à la rue et qui meurent de faim.
Ouais.
Donc il faut évidemment les organiser
les
moyens de leur survie,
voilà.
Et organiser leur conscience politique. Et Mati, qui va vraiment participer à ça, il va lutter contre le New Deal de Roosevelt, hein, qui voit comme une forme aussi, on a parlé de l'économie de guerre et comment c'était une forme d'exploitation, évidemment, et le New Deal participe en fait à ça. Hein. Il y a un embrigadement des masses qui est important avec des violences aussi contre les grèves, etc. Donc lui, il va participer aux grèves sauvages, etc. Mais en parallèle, c'est quelqu'un qui adore la théorie, fait de la théorie, écrit de la théorie, organise en fait des journaux théoriques qui regroupent les exilés, c'est-à-dire, et dans les exilés, on retrouve beaucoup des figures dont on a parlé, Karl Korsch, Grossman.
Qui est une révélation pour Matic.
Alors j'allais y venir, mais Grossman, Pankow, etc. Donc tous ces gens-là vont écrire dans les revues de Matic. Et Matic, lui, il a aussi ce caractère de synthèse, parce qu'effectivement, lorsque il découvre le texte de Grossman en 1929, hein, quand Grossman le publie, il a effectivement quelque chose, il perçoit que ce texte est extrêmement important. Et il va, en fait, c'est assez amusant parce qu'il va réussir à articuler la pensée de Grossman, donc sur l'épuisement du capitalisme et la nécessité de la lutte de classe, avec la pensée de Rulleux sur le capitalisme d'État, en fait. Et donc, il va, et évidemment, à côté de ça, il va développer une pensée qui est aussi comme celle de Pankow, comme celle de Rulleux, comme celle du Lukács de 1919, une pensée où la révolution, elle se fait par le bas, en fait. Hein. Donc, on a les trois grands axes du livre, c'est-à-dire le caractère lutte de classe nécessaire contre contre la gestion du capitalisme du désastre, en quelque sorte, hein, dans laquelle on est d'ailleurs actuellement, la pensée que cette lutte ne passera pas par l'État et que l'État, en fait, est un allié objectif du capital et que, en fait, la forme moderne du capitalisme, c'est un capitalisme d'État. Il va publier dans les années 60 un texte qui s'appelle Marx et Keynes, qui est un texte extrêmement important, qui est une critique, en fait, de ce qu'il appelle l'économie mixte, hein, qui est, en fait, l'économie fordiste, keynésienne de cette époque-là, où il explique très clairement que, en fait, ce n'est pas, contrairement à ce que pense une grande partie de la gauche de l'époque, hein, ce n'est pas, en fait, une démarche, enfin la démarche fordiste keynésienne n'est pas une démarche d'émancipation, mais au contraire une démarche de renforcement de la domination du capital. Et c'est un penseur qui va même aller dans les années 70 jusqu'à réfléchir au lien entre capitalisme et environnement, dans un débat extrêmement important que j'évoque très rapidement, mais qui mériterait qu'on en parle plus, hein, très important, avec une pensée qui est peu connue, mais qui est une pensée en fait de la décroissance qui se développait en RDA, en Allemagne de l'Est, où certains penseurs, conscients de l'aspect destructeur du capitalisme, y compris de leur capitalisme d'État, avaient essayé de développer l'idée que, en fait, on pouvait avoir une forme de socialisme de la décroissance, donc qui allait en contradiction avec la doxa marxiste de cette époque-là, pour essayer de sauvegarder la nature tout en conservant les objectifs du capitalisme d'État de RDA. Et Paul Matic, lui, il va aller dans cette polémique-là, et il va montrer qu'en fait, ce qui détruit la nature, c'est la domination du capital, et que donc, en fait, on ne peut pas faire de compromis à ce niveau-là si on veut véritablement, effectivement, avoir ce fameux métabolisme entre l'homme et la nature qui puisse être sauvegardé. Donc ça, c'est des discussions dans les années 70 qui sont absolument passionnantes. Je crois qu'on a un texte de Paul Matic sur le sujet dans le livre qui est très intéressant et qui montre véritablement que, là encore, conformément à la pensée de Korsch, Matic, c'est une pensée qui prend en compte le réel, prend en compte la situation historique dans laquelle on est et tente d'y répondre en fait en permanence. Et d'ailleurs, j'en profite quand même pour le dire, hein, Paul Matic a un fils, Paul Matic Junior, qui est encore vivant, qui publie encore, et qui est un penseur qui a écrit un livre avec son père sur le marxisme, dernier espoir de la bourgeoisie, où il montrait comment, effectivement, le marxisme officiel pouvait précisément sauver l'ordre bourgeois. C'est un texte du début des années 80. Et Paul Matic Junior, aujourd'hui, il continue, en fait, cette œuvre de son père, notamment dans la revue Brooklyn Rail aux États-Unis. Et c'est un penseur, lui aussi, qui est aujourd'hui important et intéressant.
Alors, pour information, tu précises que Paul Matic, à un moment donné, s'est retiré dans un endroit qui est devenu le fief de Bernie Sanders.
Exactement, dans le Maine, hein, qui est, ou dans le Vermont, je ne sais plus, voilà. je les mélange toujours tous les deux. Voilà, effectivement, c'est et d'ailleurs, c'est drôle parce que cette résidence un peu éloignée va devenir vraiment le point de ralliement, non seulement de certains des huit dont je parle, mais aussi de tous ceux qui essayent de faire vivre ces pensées-là. Ouais.
Cette hétérodoxie. Merci Romaric. C'est un
exercice. Merci de votre invitation et de me permettre de parler de ces auteurs, et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs d'aller voir, sinon le livre, parce que ça c'est pas très important, mais en tout cas d'aller un petit peu fouiller ces pensées-là pour alimenter nos réflexions et nos luttes.
Mais c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est pour alimenter nos réflexions et nos luttes, parce que nous sommes toujours en lutte, et Radio Libertaire est un espace de discussion, n'est-ce pas François ?
Oui, bien sûr.
Oui, d'accord. Bien, alors je rappelle que vous étiez dans l'émission
je parle pas tellement de la question,
du Gros Flux Michel, pas de quartier, sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne, et sur le net, c'est radio-libertaire.org. Alors, le groupe Louise Michel organise des animations à la librairie Publico. Dimanche dernier, tu étais l'invité du groupe Louise Michel. Tu as été brillant, comme d'habitude. Et dimanche prochain, nous diffusons un film que le groupe Louise Michel a beaucoup apprécié. C'est La Nuit du Chasseur, de Charles Laughton, avec un acteur. Allez, on va voir si la culture. Allez! Bon, un jus de fruits pour celui qui est le premier des auditeurs qui arrivera à... Ben, Robert Mitchum. D'accord. Eh ben, écoute, tu es de corvée, tu reviens dimanche pour regarder le film, Romaric. 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf, Office du Calvaire, et c'est à 16h. Et vous pouvez venir dès 15h, on vous recevra avec plaisir. Merci infiniment.
Excellente librairie que je recommande.
Merci, merci Romaric. Donc on va remercier François.
Il n'y a pas de quoi.
Ken Dong pour la technique, Romaric pour l'exercice brillant. Je rappelle le titre du livre. Penser l'émancipation autrement, oui, marxiste hétérodoxe, Luxembourg, Pencock, Pencook, Penhurst, Lukács, Rouleux, Grossman, Korsch, Matic, et c'est chez Smolny pour un prix défiant toute concurrence, 10 euros. Ouais. Vraiment.
C'est important, les livres de Smolny sont plutôt abordables.
Tout à fait.
Et c'est extrêmement important.
Voilà, ouais. Bien. Merci infiniment et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge il rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toute Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisir, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergé des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
aperçu au square, bouclée dans des souliers anglais. Je me la rêvais tous les soirs. Maman savait que je l'aimais. Si je n'ai pas changé d'histoire, ton prénom sonne un peu plus vrai. Je pourrais le dire sans y croire, mais j'en mourrais. Aussi loin que j'aille dans ma vie, j'ai jamais eu qu'une seule envie. Ça part du départ de l'enfance. C'est juste une histoire de confiance. De s'offrir un peu d'abandon. Moi déjà tout petit garçon, j'ai toujours eu, depuis toujours, besoin d'amour. Sur la table de la cuisine, je te vois écrire quelques mots. T'as les mains décidées et fines, et c'est réglo. Quand notre fils est dans tes bras, les doigts perdus dans tes cheveux, ces cheveux sur ton cœur qui bat, c'est comme je veux. Et quand je lui reprends ma place, ton front battant contre mon cou, je te sens parfois qui m'embrasse, et voilà tout. La fille du marchand d'arrosoir rigolait quand je l'embrassais. Ses frères avaient les yeux bien noirs, je savais où elle habitait.